internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 10h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour à tous, se dirige-t-on vers un procès d'ATI? Le PNF, le parquet national financier, a demandé à ce que la ministre de la Culture, Rachida Dati, l'ancien patron de Renault Nissan, Carlos Ghosn, soit jugé pour corruption. Rachida Dati est accusée d'avoir touché 900 000 euros pour des prestations de conseil auprès de l'entreprise alors qu'elle était eurodéputée. Elle dénonce un réquisitoire infamant. Ce site est inaccessible. Voilà ce que peuvent lire les internautes naviguant vers des sites pour adultes depuis hier. Orange, Bouygues ou encore SFR ont bloqué l'accès à 4 sites pornographiques sur décision de la Cour d'appel de Paris. Des associations de protection de l'enfance avaient porté plainte contre ces sites, accusés de ne pas assez vérifier l'âge des utilisateurs. Dans l'actualité aussi, Emmanuel Macron en Amérique du Sud, le président français entame aujourd'hui une tournée de 6 jours, 60 ans après le périple du général de Gaulle. Il participera au G20 à Rio qui commence lundi. Quel est le point commun entre Shanghai, Tokyo et New York? Ces villes sont les plus polluantes en 2023. À L3, elles ont émis près de 660 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Classement dévoilé lors de la COP29 en Azerbaïdjan. L'année dernière, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 0,7% par rapport à 2022 à l'échelle du globe, participant au dérèglement climatique. Aux États-Unis, Donald Trump continue de préparer le terrain. Le nouveau président élu enchaîne les nominations. Après Elon Musk à l'efficacité gouvernementale, Robert F. Kennedy Jr. à la santé, voici Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche. La jeune femme de 27 ans a géré toute la communication du candidat républicain lors de la présidentielle. Et puis, je ne dois rien à personne, réaction de Mike Tyson juste après son combat cette nuit face au youtubeur Jack Paul. 120 millions de spectateurs se sont connectés en ligne sur Netflix pour voir la défaite sur décision des juges du boxeur âgé de 58 ans. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée à tous.
La météo dans l'Hérault.
Bonjour à tous, ce matin le temps alterne entre des éclaircies et des passages nuageux. Les températures sont comprises entre 2 et 9 degrés. Cet après-midi, le ciel sera toujours un peu couvert. On note 13 degrés à Montpellier et 14 à Montagnac. Demain dimanche, retour du soleil sur le littoral. Il fera 9 degrés le matin à Saint-André-de-Sangonis et 17 l'après-midi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end sur Radio Aviva.
Le samedi 16 novembre à 19h, retrouvez dans le cadre du festival Anima le concert de Shura Lipovsky, chanteuse, danseuse, conteuse, enseignante et militante pour la paix. La diva de la chanson Yiddish réalisera une prestation à la salle Pétrarque de Montpellier afin de vous éblouir. Pour réserver, rendez-vous sur le site du festival.
Conviction, engagement et valeur les ont conduites à un parcours d'exception. Chaque semaine, découvrez deux femmes mises en lumière par le fil rouge du Midi Libre. Elles se livrent à Perla Danan au micro de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous. Les deux femmes du fil rouge aujourd'hui sont dans les entreprises, ou du moins aident les entreprises à fonctionner correctement et avec efficacité. Je veux parler de Tassadit Kivi. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes la marraine de Yona Kochiorva.
Oana, bonjour.
Oana Kochiorva, vous êtes la filleule. Est-ce que on va commencer par vous, parce que on va voir un petit peu comment vous êtes Global Business Development et stratégie. Vous faites du développement global et de la stratégie pour des entreprises, donc plutôt des grosses entreprises.
Notamment pour une entreprise Dell Technologies, en effet.
Oui. Exact. Plutôt informatique.
En effet, j'ai un parcours très technique avec des études en programmation et je suis tombée juste à la sortie de mes études chez Dell Technologies en me disant je vais tester cette grosse boîte dont je rêvais et j'y suis toujours 15 ans après.
Alors avec votre petit accent qui est charmant, vous venez d'où?
Je viens de Roumanie.
Donc Oana Kochiorva.
C'est comme ça qu'on le dit. Prononcez très bien.
Voilà. Vous êtes en France depuis combien de temps?
Cela va faire 18 ans, 19 ans. 19
ans, oui. En effet. Et comment vous avez choisi Montpellier?
C'est Montpellier qui m'a choisi.
Ouais.
Je suis arrivée vers Dijon et je voulais absolument continuer mes études. J'ai envoyé ma candidature partout en France. Montpellier m'a répondu en premier. Le lendemain, j'étais là.
Vous voyez à quel point c'est important d'avoir de bonnes universités, de la bonne recherche et derrière les entreprises qui embauchent.
Et oser, même si on ne parle pas la langue.
Vous ne parliez pas du tout le français?
Je parlais très peu.
Ah d'accord, donc bravo. Alors, vous êtes mariée, vous avez des enfants?
Alors, je ne suis pas mariée, mais j'ai une petite fille de 6 ans et demi.
D'accord,
qui m'apporte, c'est mon soleil tous les jours et mon énergie. Je fais le plein à chaque fois que je la vois, qui m'aide justement au quotidien à maintenir toutes mes actions que je mène sur le territoire. On va en parler après, j'imagine,
oui,
pour soutenir voilà, toutes les entreprises, les startups, les entrepreneurs sur la région.
Vous avez un curriculum vitae assez impressionnant et vous vous occupez d'une commission femmes et numériques à la mêlée.
Je suis coordinatrice justement de la commission femmes et numériques à la mêlée et nous sommes trois.
Oui.
Femmes à gérer cette commission. Le but est de mettre justement à disposition des outils et aider les femmes à venir plus dans les parcours du numérique.
Absolument. Nous, on fait beaucoup d'actions pédagogiques sur l'orientation et on voit qu'il y reste un plafond de verre pour les carrières scientifiques, pour les filles. Elles sont très bonnes en classe, mais elles imaginent que ça n'est pas pour elles. Donc, c'est terrible.
Malheureusement, on l'observe encore et on a discuté hier justement. Il y a pas mal de commissions et pas mal de réunions dernièrement, comme d'habitude, hein, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action pour soutenir les femmes. Et on s'est rendu compte qu'il faut vraiment agir dès la primaire, parce que voilà, les stéréotypes se créent vers le
très
collège.
Très tôt.
Oui.
Très très tôt. Alors on va découvrir qui est votre marraine, Tassadit Kivi. Tassadit Kivi, vous êtes la marraine, vous travaillez aussi sur des softwares, YoSoft. Vous êtes cofondatrice et directeur général de la société. Que fait YoSoft?
Alors YoSoft, c'est une start-up qui a été créée il y a 3 ans et demi à Montpellier et on s'est donné pour objectif de pouvoir réaliser des logiciels métiers complexes en quelques heures et sans écrire une seule ligne de code. Donc on aide les entreprises à accélérer leur transformation digitale grâce au no-code.
Sans code.
Exactement. En quelques
incroyable.
Heures, on assemble des briques comme si on réalisait un Lego et on construit son logiciel comme ça.
Donc,
et on parle de logiciels complexes comme des ERP, des CRM,
ouais,
des WMS. Oui.
Donc c'est intéressant comme tout. Je suppose que vous avez beaucoup de succès parce que quiconque à essayer de customiser un logiciel, c'est que c'est une galère.
Exactement, faire là. Et du coup, on a ouvert différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans la santé, dans l'hospitalité, dans le négoce, dans le retail. Oui, ça se développe bien.
Bravo, bravo.
Merci.
Vous avez créé ça en 2021, c'est oui. Très peu.
Oui.
Donc, combien de monde actuellement dans l'entreprise?
Alors, chez YoSoft, on est 12.
Oui, quand même.
12 employés, oui.
Oui, bravo. Et un développement rapide.
Développement rapide. Après, on a une équipe de qualité. On a des personnes qui sont les meilleures pour nous. On est très bien entouré parce que sur Montpellier, on a quand même un écosystème très riche. On
oui,
a la chance
sûr.
D'être incubé au BIC et de bénéficier de beaucoup de...
Des conseils du BIC.
De,
hein.
De richesse.
Donc, c'est l'incubateur international de la métropole, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Et c'est tout à fait important parce que les startups sont... assister, je dirais, accompagner, je dirais,
oui.
Avec des conseils financiers et autres.
C'est ça,
pour,
et des mises en relation avec des fonds d'investissement, avec
oui,
l'écosystème,
pour lever
tous
des
les
fonds,
acteurs. Oui.
Pour lever des fonds. Alors, vous êtes maman aussi?
Oui, alors je suis l'heureuse maman de 3 enfants.
Voilà.
Une aînée de 16 ans, un garçon de 11 ans et un petit de 8 ans.
Voilà. Qui est-ce qui a dit qu'il fallait choisir entre la carrière et la famille?
Absolument pas. Moi, j'ai pu allaiter mes enfants 2-3 ans chacun. D'accord.
2-3 ans chacun.
Oh, oui.
Mon Dieu. Mais alors, ils partaient au boulot avec vous? Comment vous avez fait là?
Non, j'ai fait des petites pauses.
Ah,
mais oui, il est possible d'avoir une vie de famille et une vie de chef d'entreprise. Il suffit juste d'avoir un juste milieu et un très bon équilibre.
Mais, et pas d'organisation.
Bonne organisation, voilà.
Un bon équilibre aussi. Alors, est-ce que vous aussi, vous vous donnez dans l'associatif, vous faites partie, vous êtes la vice-présidente de French Tech?
Oui, depuis
ça,
le
c'est
mois
important.
De juin. Oui.
Donc, vous venez, vous avez été élue en juin. C'est important, cette French Tech, c'est un fer de lance hein, pour la performance.
La French Tech fédère les entreprises et enfin les start-up de notre territoire sur Montpellier, Béziers et Nîmes. Notre rôle, c'est de les accompagner, de créer des synergies avec les incubateurs, les services publics, les entreprises, etc. Et c'était important pour moi d'accepter ce poste et de donner aux startups de notre écosystème ce que j'ai reçu, parce que j'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de programmes d'accompagnement de la part de la French Tech au niveau national. Et donc, c'était pour moi normal de...
Alors, on sait que vous faites du judo, hein, quand même. Alors, est-ce que...
Et oui, j'ai repris en
vous
septembre.
Vous avez été élue femme numérique 2024 avec une clé de judo ou...
Non, c'était par les votes du public. Mais oui, je pratique du judo. Je m'y suis remis en septembre cette année. J'ai eu la chance de rencontrer deux fois Teddy Riner en un trimestre. Donc, j'étais ravie.
Tout allait bien, voilà.
Ravie. Et c'est important d'avoir un sport.
Ah, oui,
et là encore,
sûr.
On voit que en faisant du judo, il y a 20 ans quand j'ai commencé, même plus, 30 ans, il y a 30 ans quand j'ai commencé ma première année de judo, on était très peu de filles.
Oui, bien sûr.
Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose dans la tech. On n'est que 24% de femmes dans la tech. Et donc, j'ai toujours été attirée par les comptes.
Bon, très bien. On va faire une petite pause musicale et puis on va ensuite voir ce qui vous réunit, marraine et filleule. continuons cet échange avec Tassadit Kivi, la marraine de Oana Kotchorva. Alors, j'aimerais que vous nous disiez comment vous vous êtes connue.
Alors, j'avais eu la chance d'être nominée et finaliste des trophées de la femme numérique
Femina Numérica
par la Mêlée à Toulouse.
Oui.
Et c'est Oana qui m'a remis le prix de la femme numérique de l'année. Et donc, ça a été une
ça
très
été
belle
le premier contact.
Exactement. Alors, ouais, très, très
ça,
belle
ça a été le premier contact, on va dire, en direct, parce que moi, je connaissais déjà Tassadit. Je participais à un jury pour un comité d'investissement.
Oui,
je l'ai vu, j'ai vu son projet, je suis tombée amoureuse de son projet, puisque je suis programmeuse à la base, donc je sais ce que c'est de développer un outil. Et je me suis dit, là, ça va faire vraiment gagner du temps
aux
entreprises.
Ouais, c'est tout à fait bien. Il faudra que vous nous expliquiez la méthode un jour dans une émission de vulgarisation scientifique, parce que c'est intéressant de savoir qu'on peut passer outre cette étape-là, en fait. Hein,
avec plaisir.
Alors, vous vous êtes connue comme ça, un peu, je dirais, professionnellement ou extra-professionnellement, et qu'est-ce qui vous rapproche? Vous avez, il y a la Mêlée, on a compris, mais ensuite?
Eh bien après, moi je dirais qu'on est complètement alignés en fait. Moi quand j'ai rencontré Oana et qu'on a commencé à discuter ensemble, des fois dans la vie il y a des rencontres qui fait que ça matche en fait. Et là, bien ça sûr. A matché parce qu'on était alignés, on partage les mêmes valeurs, et surtout je me suis un peu vue en elle quand il y a une quinzaine d'années, elle est arrivée chez Dell Technologies et qu'elle faisait partie des minorités de femmes qui étaient dans cette société multinationale. Et moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai commencé à me lancer dans une start-up dans la tech. Quand j'étais au CES de Las Vegas, il y avait très peu de femmes qui étaient dirigeantes de start-up. Et donc, du coup, voilà, ça a super bien matché par rapport à ça.
J'ai adoré aussi l'énergie.
Oui, l'énergie qu'elle dégage.
Donc, elle dégage. Ouais. Exactement. Tu parles 3 minutes avec Tassadit, tu te dis tout est possible.
Exact. Vous avez beaucoup d'énergie et effectivement, un magnifique sourire de positive décidée. Les auditeurs ne vous voient pas, mais je peux le dire. Alors, quelles sont les valeurs majeures que vous partagez toutes les deux?
Déjà, je pense à l'inclusion. Toutes les deux, puisque, comme elle disait, moi je suis passée par mes débuts de Dell Technologies, où j'étais la seule femme technicienne sur 250 hommes.
Oui.
Voilà, c'est pas. Mais j'ai de la chance quand même que j'ai débuté chez Dell Technologies, où là, la culture et puis la place de la femme, elle est mise en valeur.
Oui, oui, ils ont donc, d'ailleurs un prix d'égalité homme-femme il y a quelques années.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais par contre, on le ressent quand même, on le ressent qu'on est en minorité.
Bien sûr.
Et puis surtout devant les clients, lorsque j'avais un poste très technique, je répondais à des problématiques très techniques.
Bien sûr.
Et ils ne me faisaient pas confiance ou ils me traitaient pour la petite secrétaire, ouais, passez-moi le technicien.
C'est classique, c'est un grand classique.
Voilà. Donc, quand j'ai discuté avec Tassadit, j'ai reconnu qu'on était à un moment donné passé par les mêmes problématiques, on avait les mêmes...
Cette notion d'inclusion, cette notion de ne pas laisser faire le rejet, de se battre pour s'imposer.
Tout à fait, le fait de briser les plafonds de verre, en fait, de continuer notre chemin en montrant que tout est possible, en prenant des décisions, en continuant à œuvrer dans ce sens-là, je pense qu'on y parviendra toutes. Après, une autre valeur qu'on partage avec Oana, c'est la bienveillance. Parce que depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est vus plusieurs fois à titre pro et puis même perso. Et c'est vrai qu'on s'aide, on partage beaucoup d'événements et on se serre les coudes entre femmes, clairement. Et après, elle est très investie dans le milieu associatif local, notamment numérique. Et c'est vrai que c'est un plus aussi de pouvoir la mettre en avant aujourd'hui et de montrer son parcours.
Ça vous a donné envie de faire de l'associatif?
Alors moi, j'en fais déjà depuis longtemps.
Voilà. Je tends la perche.
Oui, alors je fais partie du Lady Circle de Montpellier, un club associatif qui aide des associations en faisant des soirées caritatives chaque année au domaine de Verchamps. Mais oui, l'associatif, ça fait partie de mon ADN.
Bien sûr. Donc vous avez aussi ce partage de démarches associatives, d'apporter un peu aux autres ce que vous avez reçu par ailleurs.
C'est très important, oui.
Parce que vous faites des activités en commun, vous arrivez à vous voir en dehors du boulot, bien que je suppose que vous avez des agendas bien bookés, mais bon.
Quand on veut, on peut. Bien sûr, on arrive à se voir. Demain soir, déjà, on a une autre soirée professionnelle, cette fois-ci de prévue, où on arrive à trouver des actions communes, en fait, où toutes les deux, on mène les mêmes batailles, au final. Donc, forcément, ça nous ramène sur les mêmes chemins et sur les mêmes événements.
Vous avez un projet commun à l'avenir ou pas encore?
Alors là, on va dire pas à titre perso, mais avec Dell Technologies de toute façon et la French Tech, on est déjà en train d'organiser des événements en commun.
Oui.
Puisque moi, j'étais déjà engagée grâce à Dell for Startup et Dell Women Entrepreneurial Network que je lead en France.
Oui.
Et j'étais déjà engagée avec la French Tech avant que Tassa Dit même soit élue vice-présidente. Et ensuite, forcément, je pense qu'on a toutes les deux, ça c'est une autre valeur en commun, je pense qu'on est toutes les deux très créatives et on a plein d'idées. Et si on nous laisse, je pense, une demi-heure toutes les deux, on va sortir 1000 projets.
Et j'ai l'impression que vous avez envie de donner toutes les deux.
Et là, en l'occurrence, avec la French Tech, moi, je suis pilote du programme Accès au marché, ce qui permet aux entreprises de passer des partenariats avec les grands groupes. Et on organise un webinaire avec Dell afin d'avoir toutes les clés de réussite pour avoir un développement commercial et de bénéficier du programme
Dell for Startup. Je
vais te laisser faire le teasing.
En tous les cas, c'est tout à fait prometteur. Je suis sûre qu'on va vous retrouver dans 2-3 ans aux manettes de projets très importants. Je vous remercie, Tassa Dit Kivi. Je rappelle que vous êtes la marraine de Oana Kocherva et que toutes les deux, vous êtes les femmes du fil rouge qui vont être retrouvées dans les colonnes du Midi Libre demain avec justement ce partenariat avec Radio Aviva.
Merci.
Merci.
Et peut-être merci aussi à Christine justement de nous avoir permis d'être là aujourd'hui.
Bien sûr. Merci.
Merci à toutes les deux.
Vous venez de découvrir deux femmes du fil rouge du Midi Libre. Elles ont partagé avec vous leur parcours d'exception. Retrouvez-les demain samedi dans votre quotidien Midi Libre. Un partenariat Radio Aviva.
Radio Aviva à Montpellier, Vendargues et Courmont-Terral, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Pourquoi tu pars, reste ici.
seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Jean-Marie Benet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes procureur général près de la Cour d'appel de Montpellier. On va évidemment ensemble parler d'institutions judiciaires, d'actualité, et elle est riche cette actualité, à commencer par une thématique liant la justice et la politique. Le parquet a requis 5 ans d'inéligibilité à l'endroit de Marine Le Pen, qui a tout de suite imaginé que la justice était politisée. Qu'est-ce que vous en dites ?
Eh bien, j'en dis que il ne faut pas tout confondre.
Il ne faut pas tout confondre, ça veut dire ?
Il ne faut pas tout confondre, c'est-à-dire qu'il y a un temps judiciaire, une procédure judiciaire, que je ne commenterai bien sûr pas.
Absolument,
bien
sûr.
Parce que je ne la connais pas. Mm-hmm. Et puis, il y a effectivement un temps politique qui peut parfois percuter le temps judiciaire. Et c'est pas pour autant que la justice est politique. Elle fait son travail dans le tempo qui est le sien, qu'on approche parfois d'être long.
On va en parler.
On va en parler peut-être. Mais en tout cas, voilà, on peut pas dire que la justice est politique parce que elle poursuit une procédure contre un certain nombre de personnes qui ont des responsabilités politiques, mais qui pour autant ne sont pas exempts de répondre d'infractions pénales éventuelles si elles sont constituées, mais ça le tribunal le dira en temps et en heure.
C'est même par les sonalités politiques qui défendent l'indépendance de la justice quand ils sont à l'Assemblée nationale, et ils le sont moins dans ce discours lorsqu'ils sont concernés par la justice. Ça vous énerve pas, ça ?
Non, c'est normal.
C'est le jeu ?
C'est normal. Vous pouvez avoir une position institutionnelle générale, généreuse, très ouverte, etc. Et puis quand vous êtes concerné, vous pouvez avoir une position différente. C'est exactement la même chose pour les gens qui disent la justice est laxiste. Mmh. Sauf que quand c'est quelqu'un de leur famille ou de leur proche qui est concerné, ils trouvent qu'elle est beaucoup trop sévère et qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Et notamment qu'elle n'est pas assez ouverte sur leurs préoccupations. Vous voyez, donc c'est exactement le même niveau de raisonnement. Ce qui est un peu dommage, c'est que parfois des responsables politiques de haut niveau relaient ce type de discours, mais c'est normal. Ça fait partie des incompréhensions nécessaires. Il est normal que on ne comprenne pas toujours que les temps ne sont pas les mêmes. C'est exactement la même chose entre le temps médiatique, le temps judiciaire et le temps politique.
Est-ce que cela ne vient pas cependant abîmer l'institution judiciaire ? Vous en êtes un des représentants. Ce discours véhiculé sur la justice politisée, une justice laxiste, trop lente, qui ne ferait pas son travail. On l'entend beaucoup, vous le savez.
Ah bah oui, ça on l'entend beaucoup, on l'entend depuis toujours d'ailleurs, hein. Ça c'est pas une grande nouveauté, même si aujourd'hui c'est un peu plus rayé qu'hier et peut-être moins que demain, on ne sait pas. Mais oui, bon, ça fait partie des choses. On ne peut pas, lutter contre ces propos. Il faut simplement montrer par l'action et par l'exemple que ça n'est pas la réalité.
Plus lente, justice plus lente. Qu'est-ce que vous répondez à cela, vous ici, à Montpellier, comme procureur général près de la Cour d'appel ? Est-ce que vous allez plus vite ?
La justice est lente. Je vais pas vous dire le contraire, faut pas se raconter n'importe quoi. La justice est lente, elle est trop lente. Elle est trop lente dans certains domaines. On peut comprendre qu'il y a un certain nombre de d'incompréhensions. Par exemple, je prends les affaires criminelles.
Oui.
Bon. Nous avons ici, à Montpellier, un stock important d'affaires criminelles à juger, avec parfois des délais, notamment pour juger les accusés libres, qui sont de plusieurs années. C'est pas normal. C'est pas sain. Derrière les dossiers, il y a des personnes, il y a des victimes, il y a des prévenus, hein, des accusés, hein, et tout ça, il faut absolument qu'on aille le plus vite possible. Sauf que on est confronté à un principe de réalité, c'est que voilà, ben il y a des priorités à faire, il y a des délais à respecter quand les gens sont détenus provisoires, ce qui est normal et une très bonne chose. Mm-hmm. Mais qui, du coup, nous interdisent parfois de juger dans des délais assez courts ou raisonnables, même un certain nombre de procédures criminelles, où il y a des victimes, par exemple des affaires de viol, qui ne sont pas jugées toujours comme il faudrait, dans les délais qu'il faudrait, des affaires qui mettaient en cause des mineurs accusés, où on les juge plusieurs années après. Mm-hmm. Tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais il faut le faire. Mais pour autant, ça n'est pas satisfaisant. Je ne vais pas vous dire le contraire.
Pour qu'elle soit moins lente, la justice, est-ce que c'est une question d'effectifs, de moyens humains, ou davantage de procédures qui se sont ajoutées les unes aux autres, qui retardent tout ce processus?
J'allais dire les deux, en général.
J'adore. Hein.
Voilà, c'est un peu ça. Non, mais c'est-à-dire, en même temps, il y a des procédures qui sont extrêmement lourdes, qui se sont alourdies au fil du temps. Ouais. Pas forcément pour embêter le monde, parce que derrière, il y a des respects des droits de l'homme au niveau européen, etc. Donc tout ça est très bien, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Et d'un autre côté, vous avez effectivement le principe de réalité qui fait que il faut du monde, il faut des magistrats, il faut du greffe, personnel de greffe pour faire le travail, il faut des locaux parfois pour que tout ça fonctionne au mieux. Voilà.
Et sur ce point-là, sur ces points-là, vous êtes comblé, vous, à Montpellier, en termes d'effectifs, de locaux. Il y a encore du travail sur ce sujet.
Si je vous dis que mieux, ça serait insupportable, je vous mens.
D'accord, très bien.
Voilà, soyons clairs. On est quand même dans une situation tendue, on va dire. Tendue, il ne faut pas se raconter.
Concrètement, ça veut dire quoi pour les auditeurs?
En termes de
d'effectifs,
en termes d'effectifs, on est effectivement dans un nombre de magistrats et de greffiers qui est insuffisant par rapport à l'activité, mais ça c'est général en
Il
France.
Il en manquerait combien, on peut le dire? Vous avez à l'esprit ce...
Si vous voulez, dans la trajectoire de 2027 qu'on a mis en place, on crée une 30-40 postes de magistrats dans le ressort de la Cour d'appel de Montpellier, c'est les quatre départements qui dépendent de la Cour, et puis à peu près autant de greffiers. Bon, c'est un premier pas. On est très loin des considérations de la CPJ, hein, le comité qui fait sur l'efficacité de la justice en Europe, qui ferait que normalement on devrait multiplier par deux ou par trois les effectifs français sur le ressort. Mais bon, voilà, on est sur une bonne trajectoire, mais il faut que les choses se mettent en place. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire, oui, on n'a pas assez de monde, c'est clair. On n'a pas assez de monde de magistrats, on n'a pas assez de monde de greffiers. Le garde des Sceaux a tout fait pour sauvegarder la trajectoire prévue pour 2027.
Didier Migaud, dans notre budget donc à venir. Hein.
Mm-hmm. Qui s'est beaucoup battu sur cette question-là. On va voir ce que le Parlement en sortira, parce que pour l'instant, le budget n'est pas voté. Donc c'est un peu entre les mains des parlementaires aussi. Voilà, on va voir ce qu'il en sort. On est sur une bonne trajectoire, mais aujourd'hui, on est sur une insuffisance de moyens, clairement.
Dans un moment où la majorité est d'abord très faible, très fracturée, et dans une instabilité politique, vous estimez que cette instabilité-là peut être à la faveur du budget de la justice parce qu'il y a un peu d'intérêt public, ou bien ça peut mettre en péril vos attentes?
Alors, je vais vous répondre, non pas en tant que procureur général de Montpellier, mais en tant qu'ancien directeur de cabinet d'un garde des Sceaux.
Oui.
Ce qui me permet d'avoir une petite analyse politique sur la question et de vous dire que, parfois, au nom de l'intérêt public, on trouve sur les questions régaliennes et singulièrement la justice des majorités de circonstances. Ce qui fait que je suis assez confiant. De ce qui pourrait sortir des débats parlementaires sur le budget pour cette année et pour la suite, malgré les difficultés qu'on connaît tous qui sont de notoriété publique en matière de compte public de la nation.
Et alors même que la judiciarisation est de plus en plus forte, on voit bien cette criminalité de plus en plus organisée, on voit bien une délinquance de plus en plus forte, on a donc besoin d'une institution judiciaire solide et qui traite les dossiers.
C'est en ça que je fais confiance aux parlementaires pour se rendre compte de ces réalités et de se dire qu'il faut, sur certains domaines régaliens, notamment la justice, eh bien avancer. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau des comptes publics de la nation, encore une fois.
Au-delà des comptes publics, comment observez-vous, on en parlait à l'instant, cette criminalité qui s'est organisée, qui s'organise, on parle du narcotrafic, on parle évidemment d'une délinquance de plus en plus importante, ici dans la juridiction de Montpellier. Comment l'appréhendez-vous, vous, en termes de justice et en lien avec les équipes du ministère de l'Intérieur et les collectivités locales ?
Alors, vaste débat hein, sur la criminalité organisée, ce qu'il y a derrière, les trafics, ce que ça implique, etc., etc. Bon, on voit bien qu'ici, dans le ressort, on a une vraie porosité sur les grands trafics, sur les questions de narco-banditisme. Pourquoi ? Parce qu'on est à la fois une zone de passage et une zone importante de consommation et donc de deal. Bon, voilà, sur les stupéfiants. On voit bien que, par exemple, ce qui rentre Perpignan fait beaucoup d'affaires. Il y a des porosités Perpignan entre Marseille et Perpignan. On voit qu'il y a des porosités entre Montpellier et Marseille, entre Sète, qui est un point de repli des malfaisants. Faut dire les choses. Et Marseille, voilà, on voit bien qu'il y a ça. Puis après, on a les délinquances de passage qui passent sur les grands trafics internationaux. On est ici dans le ressort, dans un vrai carrefour, si vous voulez, de ces questions-là, sur lesquelles on a une très forte réactivité des forces de sécurité intérieure, à commencer par la douane.
Oui.
On oublie parfois, mais qui est extrêmement importante dans son action. Bien sûr, les services de police judiciaire, que ce soit la police judiciaire au sens de la police nationale ou les services de police judiciaire de la gendarmerie nationale, on est vraiment, on est au taquet, si vous voulez, sur ces questions-là, avec une très bonne coopération avec nos camarades de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, où on a vraiment des contacts permanents, des échanges riches et vraiment. Là-dessus, je peux dire une chose, c'est que nous sommes à 200%. J'ai toujours donné, depuis plusieurs années, comme priorité numéro un de la politique pénale des parquets qu'il m'appartient de décliner au nom du garde des Sceaux dans mon ressort, la lutte contre les trafics de stupéfiants, accessoirement le trafic de tabac d'ailleurs, mais surtout le trafic de stupéfiants. J'ai toujours dit que c'est la mère des batailles. Cette mère des batailles, ça fait des années qu'on y est, et je pense pas qu'on risque de la perdre aussi vite que certains veulent bien le dire.
On voit d'ailleurs que les ministres de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et de la Justice, Didier Migaud, sont sur la même longueur d'onde sur le sujet. Alors on voit ici ou là peut-être des nuances, mais en tout cas, ils apparaissent groupés face à ce fléau qui prend de l'ampleur dans l'ensemble de nos territoires.
On est groupés, aussi bien au niveau... parti aux ministres de dire ce qu'ils ont à dire. C'est pas moi qui vais leur faire leur politique. Mais en tout cas, la politique pénale de ce ressort qu'il m'appartient de décliner et de coordonner, nous sommes tout à fait en là-dessus avec les services de police, de gendarmerie et de la douane et des impôts. Je vais vous dire pourquoi. Complètement sur la même ligne, à fond sur ces questions-là, à la fois sur la question du trafic, sur la question du blanchiment d'argent, sur la question de ce que devient l'argent, d'où il vient, où il va. Parce que, en fait, la mère des batailles, aujourd'hui, elle est à deux niveaux. elle est sur ce qui circule en termes de produits, elle est à comment est financé ce produit, d'où il vient et qu'est-ce qui devient. Voilà. Et là, on a un vrai sujet, c'est qu'il faut qu'on monte en puissance, notamment dans les services d'investigation économiques et financiers, pour arriver à remonter de plus en plus sur notamment ce que c'est devenu, procéder à des saisies, procéder à des confiscations, et taper, comme on dit, le délinquant en portefeuille, mais de manière très très précise, y compris sur ce que c'est devenu, est-ce que ça a servi à ouvrir un commerce, est-ce que ça a servi à un bar à chicha, est-ce que ça a servi à ouvrir une épicerie de nuit, est-ce que ça a servi à acheter des véhicules qui sont devenus une flotte un peu incertaine, etc., etc. Voilà, tout ça, il faut arriver à le remonter. Ce sont des procédures très longues, très complexes, avec des, il y a des masques derrière tout ça, y compris des masques informatiques, etc. Donc il faut tout remonter. C'est très long, c'est très compliqué. Il faut du monde, il faut du temps, il faut de la patience, mais surtout il faut de la volonté. Et croyez-moi, la volonté est liée.
Alors elle y est, dites-vous, avec une prise de conscience peut-être plus renforcée encore, elle n'est pas nouvelle, des collectivités. Les maires, quelle que soit leur étiquette politique, ont compris que il y avait un problème. Et là aussi, il fallait qu'ils soient proactifs, on le voit bien dans la région quand même.
Ah oui, non, mais là-dessus, si vous voulez. Là, je parlais des questions qui confinaient au narco-banditisme, c'est-à-dire on est sur un spectre assez élevé. Après, en termes de voie publique, de consommation, de présence des collectivités territoriales dans cette partie du jeu, il n'y a pas de débat. On est tous en symbiose sur ces questions-là.
En symbiose sur ce côté-là, est-ce que les collectivités vous accompagnent aussi? On parlait tout à l'heure des moyens de création de postes sur l'accueil de vos services. Il y a un projet de cité judiciaire ici à Montpellier. Où en est-on exactement?
Ça avance doucement.
Ça avance doucement.
C'est-à-dire, en fait, bon, ça, c'est très très compliqué, l'immobilier judiciaire. C'est vraiment quand on parle parfois du temps long.
C'est encore plus long là.
C'est vraiment du temps long. Ouais. Voilà. Non mais il faut être clair. Ça avance. On a une très bonne. On a des échanges, on va dire constructifs. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on est sur le dossier. Ça fait 5 ans que je suis arrivé et 5 ans que je suis sur le dossier. Comment dirais-je? Je ne peux pas dire que les choses se soient beaucoup concrétiser. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il n'y a pas à en dire beaucoup plus d'ailleurs. Bon, le souhait, si vous voulez, ici, c'est que il faut effectivement qu'on ait des locaux supplémentaires. Ça ne dépend pas des collectivités territoriales, ça dépend de l'État.
Absolument.
Tout ça, ce sont des propriétés d'État. Mais bon, c'est vrai que les collectivités territoriales peuvent être à l'aide sur des propositions qu'elles peuvent faire. Éventuellement de terrains municipaux ou pas. Après, il faut que tout ça rentre dans une analyse commune et un intérêt commun, à la fois pour les justiciables et à la fois pour ceux qui servent l'intérêt des justiciables, c'est-à-dire ceux qui rendent la justice.
Alors, je voudrais qu'on prolonge sur la question du politique. Vous le rappeliez, vous avez été directeur de cabinet d'un garde des Sceaux. Qu'est-ce que vous a appris la vie politique?
C'est très loin. Déjà, parce que en fait, c'était quand même en 2006-2007. Ouais. Donc, effectivement, c'est une expérience formidable parce que ça donne un éclairage politique. Vous savez, le directeur de cabinet, c'est celui qui est au bout de la fragile passerelle entre l'administration et le politique.
Ouais.
Et ça, vous apprenez énormément de choses, à la fois sur comment dirais-je. Le bienfait de la politique, l'analyse parfois qu'ont certains des choses, et puis aussi parfois, comment dirais-je, une approche un peu partisane des choses, un peu réductrice, un peu voilà. Et donc quand vous savez tout ça et que vous dirigez une maison comme la mienne aujourd'hui à Montpellier, c'est très très riche d'expérience parce que on se fait moins surprendre, on parle parfois la même langue avec les politiques que certains ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas eu cette expérience. Donc c'est très intéressant dans les échanges, c'est très facilitateur en fait, ou facilitateur si on veut parler français d'ailleurs, dans ces échanges-là. Voilà. Mais après...
Est-ce que la politique a encore du pouvoir pour changer la vie du justiciable, du citoyen, dans le votre domaine aujourd'hui? Vous avez eu le sentiment, en 2006-2007 et encore aujourd'hui, que la situation évolue, on peut faire des réformes qui sont concrètes pour les gens?
Ah, si on veut les porter, oui. Oui, oui. La question, c'est de trouver la bonne réforme ou les bonnes réformes, qu'elles soient admises par à peu près tout le monde, parce que ça repose vraiment sur un système de consensus, en réalité. Vous voyez, quand on fait une loi, il faut pas faire une loi pour faire une loi en réaction à telle ou telle chose. Ça, c'est très mauvais.
Tel ou tel fait divers ou telle ou telle injustice.
Que ce soit une loi de fond, le droit pénal de fond, moi, je parle du pénal parce que c'est un peu mon cœur de métier, ou que ce soit une autre procédure. Il faut vraiment que ça, on se dise, voilà, en quoi ça va apporter quelque chose, en quoi ça va faire avancer les choses. Il faut pas faire une loi qui dit, ah ben oui, il y a eu ce phénomène-là, c'est pas bien, les gens n'ont pas compris. Bon, voilà, bon, bah oui, on peut comprendre qu'ils comprennent pas d'ailleurs. Et on fait une loi. Non. Non. Mais voilà, quel est le problème? Comment on peut le traiter au mieux des intérêts en l'espèce des justiciables. Et puis comment on peut le traiter aussi parce que ça a parfois des coûts. Qu'est-ce qu'on engage? Qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes de coûts financiers, en termes de coûts humains, en termes voilà. Donc c'est ça la vraie réflexion politique en fait. Et surtout, on peut se dire mais vers où on va après? Parce que la politique, ça consiste aussi à avoir une vue générale et dans l'intérêt de la société et des gens qui la servent et qui la composent. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer quand on aura fait ça? Est-ce que ça aura apporté un plus? Est-ce que oui ou non, on aura apporté quelque chose à la pierre de l'édifice de l'intérêt commun?
Il y a une réforme sur laquelle là, il serait nécessaire de se pencher dans les prochaines semaines, les prochains mois, à vos yeux?
Je pense qu'il faut, en procédure pénale, il faut... Alors, il y a un travail de mise en conformité, de réécriture à droit constant du code de procédure pénale. Ça, c'est important parce qu'on, franchement, on a procédé par empilement depuis 40 ans. On n'y comprend plus grand-chose, même les spécialistes. Hein.
D'accord.
Moi, je vais vous dire, j'ai été 27 ans professeur associé à l'université en parallèle de ma fonction. Je faisais de la procédure pénale. Tous les ans, je me disais, mais attends, ce truc-là, j'ai pas compris comment ça fonctionnait.
Donc, un peu de simplification.
Déjà, de réécriture.
Réécriture.
C'était un travail extrêmement compliqué de remise en ordre. Et après, ça, c'est la première chose. Avant de trop toucher. Et puis après, la deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement avancer sur la gestion de procédures simplifiées, respectueuses, attention, des droits de l'homme et des intérêts des uns et des autres, hein, des grands principes, ça, attention, faut surtout pas toucher à ça, et qui permettraient quand même de simplifier, d'avancer un peu plus vite. Je pense, par exemple, pour répondre très concrètement à votre question, à, en matière de procédures criminelles, voilà, il y a un gros stock, comment est-ce qu'on fait pour avancer sur cette question-là? Est-ce qu'il ne faut pas aller sur une simplification de la procédure, par exemple, en permettant ce qu'on appelle le plaidé coupable?
Qui est en correctionnel aujourd'hui.
Qui existe en correctionnel, fait à peu près 20% des procédures correctionnelles, alors que ça a été décrié, contrebattu en 2004 quand ça a été mis en place. Moi, je l'ai mis en place à Paris, ça a été un combat extraordinaire. Mais... pour autant, aujourd'hui, ça a pris sa place. Donc, avancer sur ces questions-là, en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux et plus vite? Toujours pareil, dans le respect des grands principes, c'est fondamental.
Dernière question, Jean-Marie Benet, je voudrais qu'on parle de l'affaire Grégory. Vous avez joué un rôle clé dans la tentaculaire enquête autour de la mort de Grégory. C'était il y a 40 ans, en 1984. Quel rôle clé avez-vous joué pour nos auditeurs?
Alors moi j'ai joué un rôle, clé d'une certaine manière. Alors j'ai joué un rôle dans cette affaire de 2008 à 2013. Mais singulièrement en 2008, quand j'étais procureur général à Dijon, où j'ai décidé de requérir la réouverture du dossier qui était clôturé par un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction de Dijon, et donc où seul le procureur général pouvait requérir la réouverture. La loi le prévoit comme ça. Donc j'ai décidé de requérir cette réouverture, ce qui a permis de, comme on dit en langage journalistique, relancer l'affaire.
Absolument, c'est ce qu'on dit.
Elle est très nombreuse fois relancée. Mais voilà, c'était l'idée. Alors, le rôle clé, ça a été ça, parce que depuis,
un rôle majeur,
elle suit son cours. Bien si sûr. Je ne l'avais pas fait, l'affaire en 2011, elle était prescrite.
Vous avez une intime conviction sur cette affaire ?
J'ai une idée.
Vous pouvez nous en parler ?
Non.
Non. En tout cas, on voit
non.
Bien.
Non, alors je vais vous dire pourquoi. C'est pas une dérobade. C'est parce que tout simplement, je ne suis plus en charge de l'enquête depuis 2013. Je n'apparais plus dans le dossier officiellement quand j'ai quitté Dijon.
Bien sûr.
Voilà, j'ai quitté le dossier. Simplement, pourquoi parce que moi, je ne parle jamais des dossiers que je ne connais pas. Et puis ensuite, je me garderais bien d'aller dire que j'ai la solution. Parce que si je l'avais, il y a longtemps qu'elle serait sortie.
Dans une affaire qui a marqué la France et les Français. Et là, on voit bien que sur ces deux l'affaire s'est mêlée à la justice, aux femmes et aux hommes qui travaillent autour de la justice. Là, les Français ont bien identifié le rôle de chacun.
Oui, et ils ont bien identifié aussi que derrière, il y avait des sujets qui étaient des sujets de politique, en réalité. Parce que il y a tout un aspect sociologique dans l'affaire Grégory qui est extrêmement intéressant à regarder et qu'il faut regarder d'ailleurs pour comprendre l'affaire. Si on veut vraiment comprendre l'affaire jusqu'au bout, il y a un aspect sociologique de la vallée des Vosges, de Docelle, d'Aumonzé, etc. C'est extrêmement intéressant du rôle de chacun. De la position des avocats, de leur engagement politique, etc., etc. C'est au-delà d'une affaire de fait divers entre guillemets, parce que quand on dit fait divers pour l'assassinat d'un enfant, le mot est quand même pas tout à fait juste. Mais derrière, il y a énormément de questions politiques extrêmement intéressantes et qui sont des clés de compréhension de l'affaire.
Bon, on réfléchira là-dessus. Alors, merci Jean-Marie Benet, procureur général près la cour d'appel de Montpellier.
Merci beaucoup.
Invité ce soir.
Merci
beaucoup.
Libre échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Radio Aviva à Montpellier, Lunel et Murviel et Montpellier, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Il a plu dans la chambre, est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent, je cherche un peu la flamme, est-ce qu'il reste nous? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde. Mais la pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. Est-ce que tu m'aimes encore? La pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. L'orage se fait plus fort. Est-ce que c'est dans ma tête? Pourquoi tu t'éloignes de moi et tremble un peu mon corps? C'est comme ça qu'on se blesse, ça recommence chaque fois. Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde. Mais encore un peu le feu, dis-moi qu'il reste encore une chance. Moi je m'en fous si la pluie coule encore. Je sais qu'on en sortira plus fort. Dis-moi que tu m'aimes encore.
Sur la route entre Nîmes, Montpellier et Perpignan, Radio Aviva.
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met encore un jour d'elle, un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quelle est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en belle? Pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel, pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Cueillir la fleur d'amour.